Il est 11h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris. On va parler de l'actualité en Europe durant la prochaine demi-heure. Revenir bien sûr sur ces nouveaux droits de douane décidés par Donald Trump. Et on en parlera aussi à midi, temps universel, dans votre journal, Charlotte Hydrac.
Oui, bonjour. Montagne de taxes supplémentaires donc annoncées par le président Trump, plus ou moins importantes selon les pays. L'Asie et l'Europe sont particulièrement visées. Plusieurs pays ont déjà promis des mesures de riposte, on le verra, tout en maintenant le canal de communication ouvert pour un dialogue. En France, le président Macron reçoit là cet après-midi les acteurs des principales filières concernées.
À suivre aussi la Hongrie qui claque la porte de la CPI.
Budapest qui accueille justement en ce moment le Premier ministre israélien en grande pompe alors que Benjamin Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Berlin parle d'un mauvais jour pour le droit international.
À tout à l'heure, Charlotte Hydrac.
RFI, l'Europe à midi.
Les Européens, comme beaucoup dans le monde, se sont réveillés avec la migraine aujourd'hui, après l'annonce de Donald Trump qui frappe la planète entière de droits de douane. Il l'avait promis, il l'avait menacé, il l'a fait. 10% minimum pour les importations en provenance de l'ensemble des pays de la planète. Ça, personne n'y échappe ou presque, sauf 60 d'entre eux qui se voient imposer des droits de douane supérieurs, parfois bien supérieurs. 50% par exemple pour le Lesotho, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans Afrique Midi. Pour l'Union européenne, c'est 20%. Les 27 sont accusés d'avoir arnaqué les États-Unis. Nous sommes en direct pour en parler avec notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
C'est un coup dur pour l'économie européenne ?
D'autant plus dur que les Européens se sont déjà pris des droits de douane dans deux secteurs. Donald Trump leur a imposé 25% sur les importations automobiles. Cette URSAC est d'ailleurs entrée en vigueur hier, justement. Et il a aussi relancé la même offensive commerciale que lors de son premier mandat, avec 25%, là aussi, à l'encontre de l'acier et de l'aluminium européen. Donc les 20% infligés à l'UE à l'occasion de la journée de la libération, ces droits baptisés réciproques, ça vient remettre une troisième couche. Et selon les calculs qui ont été faits par la Commission européenne, 70% des exportations vers les États-Unis seront touchées, c'est-à-dire 370 milliards d'euros au total, ce qui permettra aux États-Unis d'extraire 81 milliards de droits de douane sur les importations européennes.
Alors on en parlait avec vous hier, Pierre, les Européens ont dit et répété qu'ils s'étaient préparés et ils ont immédiatement réagi cette nuit.
Oui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était en Ouzbékistan. Alors c'est intéressant parce que ça fait partie de la réponse européenne. Les Européens veulent étendre leur partenariat économique pour diversifier leur commerce. C'est un des quatre axes de la réponse européenne. Elle était en Ouzbékistan et à 5h15 ce matin, heure de Bruxelles, elle a fait une déclaration pour dire que ces mesures américaines étaient inacceptables, qu'elles allaient toucher très durement les pays les plus vulnérables et surtout que l'Union européenne avait un plan, qu'elle était prête mais qu'il fallait continuer peut-être à parler, d'autant qu'elle est imposée à 20%, mais des territoires associés comme par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 50% et La Réunion, c'est 37%. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à négocier.
Alors est-ce qu'on connaît les pistes qui sont envisagées par l'Union européenne ? Est-ce que Bruxelles par exemple croit toujours en sa possibilité de négocier avec les États-Unis ?
Mais en tout cas, c'est la position première, négocier pour arriver à faire réduire ces droits qui n'ont aucune justification. Négocier, mais pour négocier, il faut évidemment savoir sur quel terrain on se place. Le danger, c'est cette économie transatlantique très interconnectée, l'interdépendance entre l'économie européenne et l'économie américaine, ce qui fait qu'une moitié des pays de l'Union européenne sont extrêmement favorables à une négociation. Ils veulent pas que les Européens se tirent une balle dans le pied en répondant la même chose à Donald Trump que ce qu'il a dit.
En revanche, Pierre, l'autre moitié des pays de l'Union européenne demande tout autre chose, une action rapide pour imposer des contre-mesures.
Oui, parce que ces contre-mesures, elles existent. On a entendu des discours très fermes à Berlin, à Paris, par exemple. On a les contre-mesures qui avaient été imposées en 2018. Elles sont toujours sur la table. À l'époque de l'acier et de l'aluminium, 180 produits touchés. Et on a une autre série de contre-mesures préparées par la Commission européenne. Il faudra pour ça consulter les 27 pour qu'elles puissent être mises en œuvre. Ça commencera à partir du 9 avril. Des contre-mesures qui devraient permettre à l'Union européenne d'égaler la valeur des taxes prélevées par les États-Unis, en tout cas déjà au moins sur l'acier et l'aluminium à 26 milliards d'euros.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Voilà pour des réactions au niveau européen pour mieux faire face à cette guerre commerciale lancée par Donald Trump et qui touche en particulier l'Irlande, pays qui attire depuis longtemps beaucoup d'entreprises étrangères et notamment américaines, attirées par une fiscalité plutôt légère, disons. L'Irlande, dont les liens sont pourtant habituellement solides avec les États-Unis, mais qui redoute maintenant des conséquences très importantes pour son économie, Clémence Pénard.
Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a rapidement exprimé ses profonds regrets, déplorant une décision injustifiée. Et pour cause, l'Irlande dépend fortement du commerce et des investissements américains. Son modèle économique repose sur l'implantation des géants américains. Quelques jours plus tôt, le gouvernement irlandais tirait déjà la sonnette d'alarme et parlait de 80 000 emplois menacés dans le pays. Pour Simon Harris, ministre des Affaires étrangères, ces tarifs représentent un défi majeur pour les exportateurs irlandais, tout secteur confondu. En première ligne, il y a bien sûr l'agroalimentaire avec des produits phares comme le beurre Kerrygold et le whisky irlandais. Pour l'instant, l'industrie pharmaceutique, elle, est épargnée. Pourtant, 44 milliards d'euros de produits pharma ont été vendus aux Américains l'année dernière. Mais c'est un répit de courte durée. Des droits de douane spécifiques sont attendus dans les semaines à venir. Micheál Martin plaide ainsi pour une réponse mesurée de la part de l'Union européenne. L'Irlande joue très gros. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Une réponse mesurée pour les pays ayant le plus à perdre. Le nouveau chancelier allemand appelle au contraire à montrer les muscles face à Donald Trump, autant dire qu'il ne sera pas forcément facile de s'accorder. C'est pourtant la seule solution, selon Eric Dorr, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.
Vu l'importance, la taille des gros partenaires commerciaux des États-Unis comme l'Union européenne, comme la Chine, comme le Japon, comme l'Inde, je pense que si tous ces pays jouent intelligemment et de manière coordonnée et renforcent les flux commerciaux entre eux, ils ont les moyens de rétorquer de manière assez puissante et peut-être de ramener le gouvernement américain à la raison. Si par exemple l'Union européenne arrive à échanger davantage avec les pays du Mercosur en Amérique latine, avec le Canada, avec les pays du sud-est asiatique, avec l'Afrique, nous pouvons, en trouvant d'autres débouchés, retrouver un tissu riche d'échanges commerciaux qui compenserait ce que nous perdons aux États-Unis. Mais ça ne va évidemment pas se faire en quelques mois. Il faut des années. Et entre-temps, il y a malheureusement beaucoup de secteurs chez nous qui vont souffrir, beaucoup de travailleurs qui vont souffrir de la perte des ventes vers les États-Unis.
Eric Dorr de l'IESEG School of Management. Il existe quand même quelques pays épargnés. La Russie, pour laquelle Donald Trump explique qu'elle est déjà soumise à des sanctions internationales. Et le Royaume-Uni, qui écope tout de même de 10% de droits de douane, c'est le minimum. Mais Londres échappe au pire. Emeline Vin, vous êtes en direct de Londres et c'est un immense soulagement pour les autorités.
Et oui, vous l'avez dit, hein, avec ces 10% de droits de douane sur les exportations vers les États-Unis, le Royaume-Uni s'en sort plutôt bien. Le gouvernement s'attendait à être mis dans le même panier que le reste des Européens. Merci au Brexit, s'enthousiasme la presse ce jeudi, y compris certains titres plutôt contre la sortie de l'Union européenne, ainsi qu'une partie des élus conservateurs. Grâce à la distance prise avec Bruxelles, Londres se trouve mieux loti que ses voisins. Et c'est vrai que si Downing Street joue le rapprochement sur les dossiers de défense et diplomatie, le gouvernement se montre plus individualiste sur le plan commercial. Le Premier ministre appelle régulièrement le président américain et il assure négocier pour obtenir des aménagements sur les voitures, sur l'acier et sur l'aluminium britannique.
Et oui, car même si Londres craignait des droits de douane plus élevés, ces 10% risquent quand même d'endommager l'économie.
Bah oui, le Royaume-Uni exporte chaque année pour 70 milliards d'euros vers les États-Unis, principalement des produits chimiques et des véhicules qui, eux, restent soumis à 25% de tarifs. Keir Starmer recevait ce matin des chefs d'entreprise à Downing Street. Il admet que les mesures de Donald Trump vont représenter un défi pour l'économie britannique. Le ministre du Commerce vient d'appeler les députés à la retenue, tout en assurant que le pays ne se laissera pas faire. Il demande aussi aux entreprises de faire savoir au gouvernement quels seront les impacts des droits de douane afin de préparer des mesures de représailles en cas d'échec des négociations en vue d'un accord commercial.
Emeline Vin en direct de Londres.
RFI Midi, Anne Cantner.
Ces nouvelles taxes douanières s'affichent bien sûr en une de toute la presse européenne ce matin. Elles inaugurent, selon El País, une nouvelle ère de protectionnisme et le journal nous apprend que le Premier ministre socialiste annonce déjà un plan de plus de 14 milliards d'euros pour aider les secteurs les plus touchés par ces annonces américaines. Partout se lit la même inquiétude, partant du constat qu'aucun endroit sur la Terre n'est sûr. The Guardian s'autorise quelques moqueries. C'est étonnant de voir que Donald Trump impose des hausses de droits de douane à des territoires australiens près de l'Antarctique, inoccupés par l'homme, dont la dernière visite remonte à près de 10 ans. Un groupe d'îles couvertes de glaciers et abritant des pingouins sont désormais soumises à 10% de tarifs douaniers pour exporter leurs marchandises. De nombreux journaux du continent reviennent aussi sur la visite de Benjamin Netanyahou en Hongrie, qui n'a aucune intention de l'interpeller malgré un mandat d'arrêt international contre lui, rappelle le journal polonais Wyborcza. D'ailleurs, Viktor Orban a annoncé que son pays se retirait de la Cour pénale internationale et selon le HuffPost, il n'aurait pas pu offrir plus fort soutien au Premier ministre israélien. Et puis en Roumanie, le média indépendant G4 Média revient sur le scandale qui avait marqué la présidentielle annulée en décembre dernier. La Cour constitutionnelle soupçonnait une ingérence russe. Eh bien, un rapport du groupe TikTok révèle, selon ce média roumain, que le réseau social a bénéficié au parti d'extrême droite AOUR et au candidat populiste nationaliste Călin Georgescu grâce à plus de 27 000 faux comptes. Les trolls ont utilisé des adresses IP situées en Turquie, précise G4 Média, ainsi que des services de messagerie russes pendant la campagne électorale.
RFI. L'Europe à midi.
Nous étions tout à l'heure dans une usine d'armement en France. La volonté européenne de développer sa défense, elle passe aussi par d'autres mesures que le développement industriel. Plusieurs pays envisagent par exemple de rétablir le service militaire, comme la Belgique, qui souhaite remettre en place une formation volontaire d'abord pour tous les jeunes de 18 ans, en espérant susciter des vocations. Et l'armée ne lésine pas sur les moyens pour convaincre, comme l'a constaté notre correspondante Elena Loison lors d'une journée portes ouvertes à l'école militaire.
Comme tous les ans, les portes ouvertes de l'école ont fait le plein. Des lycéens, souvent en classe de première, sont venus de toute la Belgique pour participer.
Je viens voir pour m'informer vraiment sur les cours, sur comme les tests d'entrée et tout ça.
Dans le groupe, des jeunes qui rêvent pour la plupart d'intégrer la branche polytechnique de l'école depuis très longtemps et qui n'ont pas été refroidis par le contexte géopolitique actuel, comme Louis, 17 ans.
Dans mes amis et dans la classe que j'ai, je vois même des gens qui sont plus motivés pour rejoindre la défense, pour justement aider la Belgique. Et moi, c'est vraiment pour ça aussi que je rejoins la défense, c'est pour protéger mes proches, protéger le pays qui m'a élevé. Et justement pour que moi, j'ai grandi dans un climat de sûreté. Et le but, c'est vraiment de récupérer ce climat de sûreté qui moi, m'a fait grandir tranquillement.
Bonjour à tout le monde. On m'a demandé de donner un petit coup.
La journée commence par une leçon consacrée aux technologies militaires de repérage.
Ceci est une image d'une caméra thermique.
À la sortie, la plupart sont convaincus de vouloir rejoindre l'école.
C'était intéressant et c'était motivant.
Cette année, le nombre d'inscriptions à l'examen d'entrée a augmenté de près de 10%. Une bonne nouvelle pour le lieutenant Thibault qui encadre des élèves de l'école.
Les journées comme ça permettent d'attirer forcément du personnel, mais le but n'est pas de vendre ce qui n'est pas vrai. Donc le but est vraiment de permettre à chacun de faire son avis sur ce qu'il a envie de faire plus tard. Et effectivement, c'est un bon moyen de le faire. Donc oui, ça attire du personnel et je pense que le but est vraiment aussi là-dedans. On a plus de gens sont attirés par la défense aussi et forcément on va jouer là-dessus pour attirer un maximum de personnel, arriver à des objectifs un peu plus élevés dans les années à venir et voilà.
L'armée belge doit étoffer ses rangs. Le ministre de la Défense veut passer de 26 à 29 000 soldats de métier d'ici 2030 et faire tripler le nombre de réservistes d'environ 6 000 actuellement à 20 000 dans les prochaines années. Pour cela, un service militaire volontaire a été proposé et certains, parmi les visiteurs du jour, comme Irina, 19 ans, auraient bien voulu qu'il soit déjà mis en place.
Bah, apparemment, c'est un bon aperçu. S'il faisait cette année, de base, c'était pour septembre 2025. Bah, je me serais dit, en attendant, parce que je sais pas comment formuler ça, mais je suis pas encore prête mentalement, j'ai l'impression de rentrer à l'armée, donc je me dis que c'est bien comme aperçu pour les jeunes qui veulent rentrer à l'armée, faire son service militaire volontaire, c'est une très bonne chose.
Il faudra néanmoins attendre au moins encore un an et demi avant de voir ce service militaire devenir réalité, le temps de se préparer, de trouver les infrastructures d'accueil, mais surtout de trouver des formateurs. Le pays en manque déjà à l'heure actuelle pour former les soldats de métier. Au micro de la RTBF, Boris Moranville, représentant du principal syndicat de la Défense, s'inquiète de la faisabilité du projet.
Attirer des jeunes vers la défense, l'idée est bonne. Cependant, en termes d'infrastructure, croyez-moi, nous n'avons pas les moyens infrastructure vu le désinvestissement qu'il y a eu ces 30 dernières années. En termes logistiques, ça va être très compliqué d'assurer aussi au niveau matériel, mais surtout dans le facteur humain, et c'est là où le bât blesse. Ça me semble, à l'heure actuelle, en moyens humains, irréaliste.
Des courriers seront envoyés aux 120 000 jeunes de 18 ans que compte la Belgique en novembre prochain. Les volontaires devront ensuite se soumettre à des tests sportifs, des évaluations psychologiques pour un début de service prévu en septembre 2026. 500 jeunes seront choisis pour inaugurer ce service militaire volontaire d'un an, rémunéré 2 000 euros par mois. Par la suite, 1 000 jeunes de 18 à 25 ans seront sélectionnés chaque année. Ils pourront être rappelés ensuite jusqu'à 10 ans après leur service. De quoi grossir les rangs des réservistes, mais aussi, espère-t-on du côté du ministère, d'inciter les jeunes à poursuivre leur carrière dans la défense. De l'aveu même des autorités, le projet a également pour but de provoquer une prise de conscience dans la population de la gravité de la situation géopolitique actuelle.
Un reportage à retrouver ce soir dans l'émission Accent d'Europe à 17h10, temps universel. Autre grand chantier en Europe, le Pacte vert. Grand projet pour protéger l'environnement présenté en grande pompe en 2020, mais sur lequel les députés reviennent petit à petit. Le Parlement européen vote par exemple aujourd'hui en procédure d'urgence un projet de simplification des textes liés à ce Pacte vert. Romain Le Maresquier, l'Assemblée, qui penche beaucoup plus à droite et à l'extrême droite que la précédente, défait le travail des députés sortis l'année dernière.
C'est le grand sujet au Parlement européen cette semaine. Un projet de législation qui vise à simplifier les obligations réglementaires des entreprises portées essentiellement par les conservateurs du Parti populaire européen, le plus grand groupe de l'hémicycle. Un texte qui réjouit également les élus des différents groupes d'extrême droite, puisqu'il vise à détricoter le travail réalisé lors de la précédente législature, ce que reconnaît François-Xavier Bellamy, député européen et vice-président exécutif des Républicains.
Il faut évidemment savoir défaire ce qui a été mal fait. Il est tout à fait normal maintenant que nous avons une autre majorité dans ce Parlement, que, en restant cohérent avec les combats que nous avons menés, nous puissions réussir à renverser la tendance.
Si dans le camp des conservateurs on se réjouit de cette orientation, à gauche, mais aussi dans le camp écologiste, on ne le comprend pas, Marie Toussaint, députée européenne et vice-présidente du groupe des Verts.
Aujourd'hui, toutes les études montrent que les fameuses normes européennes contribuent à la sécurité, à la compétitivité des entreprises à travers le monde. Nous devons protéger le modèle européen et ce modèle européen, il ne faut pas le détruire comme ce qui est proposé aujourd'hui. Il n'y a pas de raison et d'ailleurs aucune étude d'impact et aucune consultation digne de ce nom n'a été réalisée par la Commission européenne.
Ce projet sera soumis au vote des députés européens ce jeudi. Si le oui l'emporte, les discussions en commission débuteront dès la semaine prochaine, ce qui, selon François-Xavier Bellamy, permettra une entrée en vigueur de ces simplifications dans les prochains mois. Romain Masqué, Strasbourg, RFI.
Notre monde de tech consacré aujourd'hui à un nouveau projet, Tara, développé par Alphabet, la maison mère de Google. Dominique Dezonnet, l'objectif est d'utiliser des faisceaux lumineux pour transmettre des données encore plus rapidement, bien plus vite qu'avec la fibre optique utilisée actuellement. Et ce projet, il a déjà été testé dans une douzaine de pays comme le Ghana, le Kenya, l'Inde ou encore la République démocratique du Congo.
Oui, le projet Tara est né du constat que près de 3 milliards d'individus dans le monde ne sont soit toujours pas connectés à Internet ou alors confrontés à une connectivité lente et défaillante, un accès à Internet minimaliste qui est par ailleurs souvent proposé à un tarif prohibitif pour ces déshérités du web. Google a donc travaillé sur une solution technologique économique mais puissante de transmission des flux de données numériques. Le système utilise des ondes lumineuses situées entre l'infrarouge et la lumière visible. Concrètement, l'équipe Tara a mis au point une puce photonique en silicium pour générer des ponts lumineux de connexion. L'équipement se compose de la puce, évidemment, mise au point dans les labos de Google, et intègre plusieurs miroirs, mais aussi des capteurs, des optiques de précision. Lorsque deux appareils se font face, ils s'alignent automatiquement pour se relier entre eux. Le système transmet des flux de données à des vitesses allant jusqu'à 20 mégabits par seconde sur des distances assez conséquentes. conséquence d'environ 20 km. À titre de comparaison, eh bien, ce transfert numérique est comparable, voire supérieur, à une infrastructure en fibre optique.
Plus rapide, moins coûteux que des connexions satellitaires de type Starlink, le système Tara se veut plus facile à développer, plus économique. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté.
Effectivement, un réseau Tara consomme environ l'énergie d'une ampoule de 40 watts, annonce la jeune pousse qui porte désormais le nom du projet originel, alors que des composants mécaniques étaient auparavant nécessaires pour orienter automatiquement les faisceaux lumineux et les miroirs. La nouvelle puce Tara est équipée de centaines d'émetteurs et d'un logiciel qui permet le contrôle de la direction des rayons. Après des recherches qui ont duré 7 ans, les appareils qui se nomment Tara Lightbridge ont été miniaturisés à l'extrême, passant ainsi de la taille d'un feu de circulation à celui d'un ongle de la main pour connecter en réseau les récepteurs et les transmetteurs.
Et à en croire les créateurs de Tara, le système peut être déployé partout dans le monde.
Oui, il a déjà été testé avec succès au-dessus du fleuve Congo, démontrant ainsi la capacité de cette technologie à fournir des connexions stables et rapides sur de longues distances. Pour illustrer la flexibilité du procédé, des déploiements en Inde, au Kenya, aux îles Fidji ou sur le territoire américain ont permis de connecter des zones rurales enclavées ou de retransmettre sur le web des événements tels que le festival de la vallée de Coachella aux États-Unis. Sans les contraintes du câblage physique, Tara peut être déployé en quelques heures en cas de catastrophe naturelle. Enfin, ce dispositif propose également un accès alternatif quand les réseaux traditionnels sont saturés dans des zones urbaines densément peuplées.
Dominique Dezonnet pour notre monde de tech. À demain. On va parler théâtre à présent avec le directeur du plus grand festival du genre en France, le Festival d'Avignon qui se tient au mois de juillet. On connaît désormais le programme qui mettra la langue arabe à l'honneur. Thiago Rodriguez en parle avec Muriel Malouf.
Thiago Rodriguez, vous venez de dévoiler le programme du prochain Festival d'Avignon avec cette année, après l'anglais et l'espagnol, l'arabe comme langue invitée pour cette édition.
C'est une des envies que nous avions en invitant des langues au festival, c'est d'un côté de dire au monde que à partir d'Avignon, nous regardons le monde plutôt lié, connecté, par des langues que divisées par des frontières et des nationalités. Après l'anglais et l'espagnol, les deux dernières années, on essaie de célébrer la diversité des arts vivants liés à la langue arabe avec des spectacles qui viennent de plusieurs pays, évidemment en sachant que ça serait toujours impossible de faire une programmation encyclopédique qui fait le portrait complet historique d'une langue. C'est pas non plus ça l'objectif. L'objectif, c'est de être inspiré à une recherche, à une pratique de curiosité à cause d'une langue, de spectacle, mais pas seulement, aussi de cinéma, de littérature, de pensée, de philosophie, de musique, de poésie.
La poésie, donc, est une des grandes richesses hein, de la culture arabe. La poésie, celle de Mahmoud Darwish, est en quelque sorte la devise du festival.
Oui, Mahmoud Darwish, en tant qu'un des grands poètes contemporains de langue arabe, il nous accompagne cette année. Le texte d'ouverture de notre programme, j'ai profité d'un vers de Mahmoud Darwish, qui pour moi est aussi une inspiration pour comment construire une programmation, soit avec la langue arabe ou sans langue arabe, n'importe quelle programmation. C'est cette idée de ce vers très beau de Mahmoud Darwish qui dit « Je suis toi dans les mots ». Je m'excuse de ne pas être capable de le dire en arabe, mais c'est un vers qui me touche énormément. « Je suis toi dans les mots », cette idée que on peut devenir l'autre. Et ce devenir l'autre, c'est jouer à ce jeu ludique aussi, d'être quelqu'un d'autre, mais de pratiquer une curiosité en respect et plus que ça, en amour de la différence. Et je pense que cet amour de la différence sera au cœur de cette édition du Festival d'Avignon.
Et les événements phares en dehors de la langue arabe, il y a la Comédie française donc qui revient cette année avec une pièce emblématique hein, au festival.
Un des grands événements de cette année sera sans doute la présentation du Soulier de Satin de Paul Claudel dans la mise en scène sublime de Eric Ruff pour la magnifique magnifique troupe de la Comédie-Française à la cour d'honneur du Palais des Papes, qui est en geste dans spectacle fleuve d'une nuit entière jusqu'à l'aube avec ce spectacle formidable, mais aussi une forme de dialogue avec l'histoire du Festival d'Avignon, car un des grands monuments de la mémoire de ce festival est la mise en scène de 87 d'Antoine Vitesse, précisément de ce texte de Claudel.
Vous serez vous-même en tant que directeur, mais aussi en tant que metteur en scène, avec une pièce dystopique cette fois.
La pièce que je présenterai est une pièce d'anticipation qui se projette à l'avenir en 2077. Je ne sais pas encore, parce que j'écris pendant les répétitions avec et pour les comédiens, si ça sera une pièce vraiment dystopique ou utopique, mais c'est vraiment une pièce qui imagine un avenir.
Merci Thiago Rodriguez.
Merci beaucoup. À très bientôt à Avignon.
Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon, au micro de Muriel Malouf. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans 5 minutes et puis dans un peu plus d'une demi-heure, à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez aujourd'hui.
La forte hausse des droits de douane annoncée hier par les États-Unis. L'Afrique n'est pas épargnée. Le Lesotho et Madagascar prennent le plus cher avec des taxes supplémentaires de 47 et 50%. L'économiste Jean-Baptiste Velu sera l'invité d'Afrique Midi. Et puis au Burkina Faso, 3 journalistes interpellés la semaine dernière pour avoir prononcé des propos critiques contre la junte au pouvoir, envoyés au front, ils sont apparus dans une vidéo, le crâne rasé et vêtu de treillis militaires.
Vous nous en direz plus tout à l'heure, dans un peu plus d'une demi-heure. Pour l'heure, on va écouter un peu de musique avec le groupe Groundation, l'un des pionniers du reggae roots moderne, avec un nouveau titre à écouter en ce moment dans la playlist RFI. C'est le choix de nos programmateurs, Spirits in the Material World. But it will be a rhetoric of failure.
From day to day, hand to mouth it never works. If there is something we can't buy,
money, money, money rule away.
There must be another way,
another way out.
We are spirits in the material world of spirits. In the material world, we are spirits.
RFI Midi.
RFI, la sélection du mois.
L'objet.
Somebody like you. Somebody just like you. I need somebody just like you. No my life I've been chasing.
And if you hear this on the gong, Molly. Gong underneath, baby, shake it to the max.
For
the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.
Florence Adoni. C'est où Georges?
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Pourquoi RFI dit ça? Juliette Rangeval.
Les journalistes ressentent-ils la fatigue informationnelle? Mauvaises nouvelles, réseaux sociaux et écrans omniprésents, comment séparer vie privée et vie professionnelle? Quelle stratégie adopter pour éviter un impact trop fort sur la santé mentale?
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.